accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Je crois qu'elle a raison de dire que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'avoir un tel aboutissement aux négociations. Mais il faut constater que, vu ce qui a déjà été dit...
Bonjour à tous, la voix de l'homme qui a fait trébucher la première ministre britannique alors que les dirigeants européens sont réunis pour 2 jours à Bruxelles pour évoquer entre autres les conditions d'un divorce avec le Royaume-Uni. Theresa May a subi un sérieux revers dans son propre camp. La Chambre des communes britannique a voté un texte qui obligera la première ministre à faire adopter par le Parlement tout accord d'être susceptible d'être trouvé avec Bruxelles avant sa signature. À l'origine de cette fronde, donc, un député conservateur, Dominique Grieve, dont Marie Billon nous dresse le portrait.
Dominique Grieve se veut un conservateur libéral. Il fait partie de l'aile europhile de son parti. Il est en fait européen de naissance, puisque sa mère était franco-anglaise. Il a étudié au lycée Charles de Gaulle de Londres et continue aujourd'hui encore à parler la langue de Molière sans accent et avec une élégance que l'Académie française pourrait presque approuver. Dominique Grieve a fait campagne pour rester dans l'UE et a infligé sa première défaite de taille à Theresa May sur un texte lié à la procédure du Brexit. Ah, la procédure, c'est son dada. Si Dominique Grieve n'attire pas les foules, c'est parce que c'est un technicien du mot et de l'idée. Ce n'est pas un hasard, il a d'abord été avocat et puis procureur général. L'esprit et la lettre de la loi sont pour lui la base de tout, surtout quand il est question du Brexit. Mais pas seulement. Il se vante ou se justifie de ne pas être un rebelle de carrière en rappelant que, par le passé, il n'a voté qu'une seule fois contre son parti dans toute sa carrière. Mais avant ça, il avait déjà déplu à un premier ministre conservateur, David Cameron, en 2014. Ce dernier voulait bouter la Convention européenne des droits de l'homme hors des îles britanniques. Dominique Grieve, procureur général depuis 2010, ne pouvait souffrir cet affront à la loi et à l'Europe et n'a pas hésité à dire ce qu'il en pensait. Résultat, il a été remercié. Mi-novembre, le député s'est fait un nouvel ennemi en la personne de Theresa May. Quelques minutes après le vote, les couloirs de Westminster bruissaient de paroles de vengeance et de punition. Mais Dominique Grieve est un homme de principe et c'est pour cette raison qu'il a su convaincre une partie de ses compagnons conservateurs de se rebeller avec lui et à voter avec, ce n'est pas un détail, la gauche et le centre, sur un amendement qu'on l'imagine tout à fait avoir écrit de sa plus belle plume.
C'est une guerre qui se poursuit depuis près de 4 ans aux portes de l'Europe. Le conflit dans l'est de l'Ukraine a ravagé l'économie et les infrastructures du Donbass, cet ancien cœur industriel de l'URSS. Les routes, les voies de chemin de fer, les lignes électriques se retrouvent coupées par la ligne de front, régulièrement agitées de duels d'artillerie meurtriers. Et juste sur cette ligne se trouvent également des stations de pompage et d'épuration d'eau, cruciales pour des centaines de milliers de personnes. À Avdiivka, le reportage de Sébastien Gobert.
Entre les ruines de maisons de campagne et d'anciens jardins truffés d'éclats d'obus, les positions de l'armée ukrainienne sont bien enterrées dans des abris souterrains et des dédales de tranchées. À quelques dizaines de mètres de là, la station d'épuration de Donetsk tranche par sa taille. C'est un ensemble de grands bâtiments qui assure le filtrage de l'eau livrée à des dizaines de milliers de personnes.
Oui, nous sommes dans le No Man's Land.
Oksana Grechnaya est la responsable des communications de la station. Nous la joignons par téléphone car il est impossible, en tout cas très dangereux, de franchir la ligne de front pour se rendre sur place. Les quelques 80 employés se rendent au travail chaque jour à partir des territoires sous contrôle séparatiste, au péril de leur vie.
On travaille bien sûr, mais pas dans des circonstances normales. Aujourd'hui, ça a été, mais dimanche dernier, nous avons été bombardés. Ça arrive régulièrement.
Inaugurée au début des années 1980, la station est partie prenante d'un vaste complexe hydraulique que les Soviétiques avaient conçu pour irriguer le Donbass. Avant la guerre, 5 millions de personnes en dépendaient. À Kiev, Hennady Maistrenko est ingénieur au sein du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR.
C'est tout un ensemble d'installations qui sont situées près de la ligne de front. 7 stations de pompage, dont dépend la station d'épuration d'eau, 1 deuxième station d'épuration, la plus grande, dont dépend toute la grande ville de Donetsk. Vous voyez aussi ce grand canal qui descend jusqu'à la mer et qui dessert toute la partie sud de la région. On ne peut pas parler de la station d'épuration de Donetsk comme un élément séparé. Elle fait partie d'un système plus vaste.
Depuis 2015, la station et d'autres infrastructures civiles sont sur une liste de cibles à préserver. Sur les positions ukrainiennes, le soldat Vassili est catégorique.
S'il y avait de l'équipement de guerre, on le bombarderait. Une des lois de la guerre autorise à viser des positions militaires, offensives ou défensives. La station d'épuration n'a rien de militaire. Nous savons très bien que c'est une station vitale pour les populations civiles.
Pourtant, en 2017, la station a été touchée au moins une douzaine de fois. Elle a dû interrompre son activité à plusieurs reprises pendant de longues semaines.
Personne ne va admettre avoir touché la station, ni d'un côté, ni de l'autre. Mais même après la conclusion d'un accord entre les parties pour ne pas viser les infrastructures d'eau, nous avons continué à recevoir des rapports de bombardement sur la station de Donetsk.
Pour Gennady Maistrenko, le premier risque de cette situation est la sécurité des employés. Le deuxième, c'est le danger posé aux populations locales en cas d'arrêt de la distribution d'eau.
Si les employés doivent se réfugier dans des abris, le travail de la station de pompage s'arrête. On ne peut pas faire fonctionner cette station à 100 km de distance avec un smartphone.
Les centrales n'assurent pas que la distribution d'eau courante, mais aussi la fluidité des canalisations de chauffage. En février 2017, des bombardements violents sur la ville d'Avdiivka avaient stoppé l'activité de la station d'épuration. Au bout de deux semaines d'un froid glacial, les tuyaux de chauffage ont dû être vidangés avant de pouvoir resservir. Les habitants sont restés près d'un mois sans chauffage. Gennady Maistrenko coordonne pour le CICR des projets d'aide à la station, comme remplacer les fenêtres, combler les trous d'obus ou encore assurer le transport des employés chaque jour. Il est primordial de garder un accès direct à la station en cas de catastrophe majeure.
Pour moi, le plus grand danger sur cette station de Donetsk, ce sont entre 3 et 7 cylindres remplis de chlorine.
La chlorine est un produit chimique utilisé pour le fonctionnement des stations d'épuration. Libéré dans la nature, sans contrôle, il peut se révéler extrêmement toxique.
Si un cylindre est touché directement par des tirs, cela peut entraîner des pertes humaines considérables à Avdiivka et dans les villages alentours.
Ce danger est connu des belligérants, ce qui n'empêche pas la station de se retrouver entre deux feux. Chacun imagine des solutions temporaires pour assurer le bon fonctionnement des infrastructures et la distribution d'eau aux populations. Mais pour développer des alternatives sérieuses, modernes et durables, il faudrait beaucoup d'argent, du temps et pouvoir travailler en paix.
Señor, señor, señor peluquero, ya se quedó sin dinero. Pues nadie ya se quiere pelar, 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 pelar.
À Barcelone, en Espagne, près d'un millier de sans domicile fixe vivent dans la rue et ce chiffre augmente chaque année. Les associations dénoncent le manque de moyens consacrés par les pouvoirs publics à leur hébergement d'urgence. Des particuliers ont décidé d'agir directement comme Lewinson Campas Castro dit Lewin. Chaque dimanche, depuis un mois et demi, ce coiffeur de 24 ans va à la rencontre des sans domicile fixe pour leur proposer une coupe de cheveux gratuite. À Barcelone, le reportage de Laetitia Farine.
Moi, je m'appelle Lévin. Depuis combien de temps tu vis à Barcelone, Thomas?
Moi, je suis venu en Espagne il y a 20 ans.
Et ta famille, où est-elle? En Hongrie?
Elle est morte.
Que leur est-il arrivé?
C'est la vie.
Une coupe de cheveux en échange d'une histoire de vie, c'est ce que propose Lewin tous les dimanches au sans-abri de Barcelone. Accompagné de deux amis, le jeune homme déambule toute l'après-midi dans les rues de la ville avec un sac à dos et un tabouret sous le bras à la recherche de personnes auxquelles il pourrait venir en aide.
Ce que nous faisons, c'est une petite contribution aux gens qui en ont besoin, comme lui. Ce sont des gens qui viennent d'autres pays sans rien. Donc ça me fait beaucoup de peine de les voir comme ça. Beaucoup d'entre eux ont besoin aussi d'un sac de couchage pour dormir, d'une couverture, donc on va en donner aujourd'hui. Ce qui m'a amené à faire ça, c'est ce que j'appelle le dessein de Dieu, car c'est ça que je ressens. Je crois que Dieu m'a donné cette mission dans la vie pour aider les autres. Nous continuerons de le faire jusqu'à ce que d'autres personnes s'impliquent. Nous voulons que les gens qui nous regardent soient touchés et que ça leur donne envie de participer.
Une chose est sûre, cela marche. À chaque coupe de cheveux, des dizaines de passants s'arrêtent pour observer Lewin en action. Certains prennent des photos, d'autres font des compliments. D'autres encore s'arrêtent pour donner une pièce à Lewin pour le féliciter. Celui-ci refuse et préfère la donner à Thomas, le sans-abri qu'il est en train de coiffer. Thomas n'est pas très bavard. Pendant qu'on lui coupe les cheveux, il sourit aux passants qui l'observent et reste assis patiemment sur son tabouret. Quand vient l'heure de se voir en photo pour admirer sa coupe, il reste quelques secondes pantois, comme s'il ne se reconnaissait pas, avant de remercier grandement Lewin et ses amis en les serrant dans ses bras. Ferran Busquets est le directeur d'Arels Fundación, une association qui lutte depuis 30 ans pour accompagner les personnes sans-abri ainsi que pour sensibiliser les citoyens et les pouvoirs publics à leur situation. Pour lui, aider les sans-abri à prendre soin de leur hygiène, c'est essentiel.
Quand une personne est dans la rue, elle est en chute libre. Ça veut dire que cela ne va qu'en s'empirant du point de vue émotionnel, de la confiance en soi, de ses espoirs, du point de vue social aussi. Ce que nous pouvons dire à une personne qui est dans la rue, c'est « accroche-toi, car des temps très durs vont venir ». Mais une personne qui est dans la rue veut être propre, être entretenue, avoir une bonne apparence, etc. Le problème, c'est que ces services sont très loin de là où ils se trouvent. C'est une des difficultés les plus grandes qui existent.
Après Thomas, Lewin et ses amis vont à la rencontre de Berto, hongrois de 55 ans. Assis à même le sol, une canette de bière et une cigarette roulée à la main, il marmonne dans sa longue barbe qu'il n'a pas coupée depuis 8 ans. Cette fois-ci, la communication est plus difficile. Mais avec des expressions basiques, les deux hommes finissent par se comprendre.
Dis-moi, quelle coupe te plairait ? Tu voudrais vraiment très court ? Vraiment, la coupe à zéro ?
Pour Ferran Busquets d'Arels Fundación, les SDF étrangers sont victimes d'une double peine.
Ceux qui viennent d'autres pays et qui n'ont pas de papier pour pouvoir travailler ou pour attester de leurs droits, ce sont ceux qui sont dans la pire des situations. Non seulement ils n'ont ni l'accès ni les moyens de faire valoir leurs droits, mais ils n'ont aucune perspective que cela change. Nous condamnons ces personnes. Nombre d'entre elles vont rester ici, car elles se sentent désormais chez elles.
Pour donner à d'autres l'envie de s'impliquer, Lewin publie sur les réseaux sociaux des photos des sans-abri qu'il a aidés. Une initiative qui paie, puisqu'un autre coiffeur lui a offert son aide et plusieurs personnes ont proposé de lui donner des vêtements et de la nourriture à distribuer.
Le bleu, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal entrevé. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder.
Et l'on revient sur la disparition et la carrière de Johnny Hallyday, un monument national français. Mais malgré ses 50 albums et ses 3250 concerts produits en 57 ans, la popularité de notre Johnny n'a pas franchement débordé les frontières de l'Hexagone ou des pays francophones limitrophes. Ce phénomène n'est d'ailleurs pas propre à la France. Dans plusieurs pays européens, de grosses vedettes du rock ou de la pop déchaînent les foules nationales sans que leur notoriété passe les frontières. On parle de ces monstres sacrés parfois inconnus avec Daniel Vigneron de MyEurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors pourquoi Johnny reste-t-il méconnu hors de France ?
Oui, comme le soulignait ironiquement un journal anglo-saxon, il est le plus célèbre rocker de la planète dont quasiment personne n'a jamais entendu parler. De fait, celui qui s'est donné en spectacle devant un public cumulé de 28 millions de personnes et qui, prétendent les maisons de disques, aurait vendu près de 110 millions de vinyles ou de CD, eh bien il n'est guère connu à l'étranger que par les expatriés français et quelques fondus du rock'n'roll. La raison en est simple, il n'a absolument rien de ce « typically French » qui a pu séduire naguère des publics anglo-saxons, germaniques ou asiatiques, touchés à des degrés divers par des stars comme Edith Piaf, Tino Rossi, voire même Charles Aznavour. D'ailleurs, même si les chiffres sont à coup sûr gonflés, au palmarès mondial des ventes de disques, Johnny Hallyday est devancé par Aznavour, crédité de 200 millions de disques, et carrément distancé par Tino Rossi, qui aurait passé les 500 millions durant ses 52 ans de carrière. Et l'on est loin du milliard de disques attribués à chacun des trois papes du hit parade mondial que sont Elvis Presley, Michael Jackson et les Beatles.
Alors est-ce que d'autres Johnny européens, si l'on peut dire, vendent-ils plus que notre star ?
Oui, si l'on considère le Johnny britannique, qui est Elton John, on parle de 300 millions de disques vendus. Mais contrairement à Johnny, Elton John joue en catégorie mondiale et vend plus de disques aux États-Unis qu'au Royaume-Uni. And it seems to me you lived your life. single Candle in the Wind, sorti en 1997, s'écoule à 33 millions d'exemplaires, alors que le single phare de Johnny, Marie, sorti en 2002, n'atteint que 1 400 000 ventes. Mais Elton présente beaucoup de points communs avec Johnny. La carrière de cet enfant unique, né en 1947 sous le nom de Reginald Dwight, est presque aussi longue, 50 ans, et sa discographie, 33 albums et ses 4000 concerts, aussi abondant. Comme Johnny, il a traversé des périodes sulfureuses marquées par l'alcool et la drogue. Cela dit, Elton John est un auteur-compositeur et non seulement un interprète.
Qui d'autre en Europe dépasse Johnny Hallyday ?
Octogénaire dans quelques jours, l'Italien Adriano Celentano a commencé sa carrière de rocker en 1957. Il a produit 36 albums et est réputé avoir vendu plus de 150 millions de disques. Compositeur-interprète comme Elton, il est également acteur comme Johnny, mais également réalisateur de films et animateur de télé. Outre un engagement politique plutôt à gauche qui le différencie du French Elvis, la réputation de Celentano a vraiment passé les frontières italiennes et sa notoriété n'est pas négligeable en France ou en Allemagne. Ce qui le différencie d'un autre Johnny transalpin, Toto Cutugno, né en 1943 comme Hallyday, 100 millions de disques vendus et de nombreuses musiques composées pour des chanteurs français comme Joe Dassin, Dalida, Sardou et même Johnny. Pourtant, il est peu connu hors d'Italie, même si des millions d'Européens connaissent par cœur son plus gros tube, Lasciatemi cantare.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi
En ce qui concerne l'Espagne, vous n'allez pas nous parler de Julio Iglesias, je suppose.
Non, Laurent, car malgré son succès mondial, ce chanteur de charme latino ne présente guère la rock'n'roll attitude qui ferait de lui un Johnny ibérique. En revanche, il faudrait évoquer Alejandro Sanz, de 25 ans, le cadet de Johnny, et qui aurait vendu 25 millions de disques en Espagne et en Amérique latine. Mais il reste peu connu en France et ailleurs en Europe.
D'autres inconnus célèbres en Europe, Daniel ?
L'Allemand Herbert Grönemeyer, 61 ans, enflamme les foules germaniques depuis les années 80. Son gros tube initial, Bochum, de même que plusieurs hits plus récents, ont vraiment des accents hallydéens. Cela dit, malgré ses succès en Allemagne, Autriche et Suisse, Grönemeyer reste un phénomène moins puissant que Johnny, avec seulement 20 millions de disques vendus et 15 albums produits.
Du hast einen Pulsschlag aus Stahl. Qu'en est-il des Nordiques ?
Bien qu'il soit plus pop and folk que rocky, il faut parler de Rob de Nesch aux Pays-Bas, un quasi-contemporain de Johnny né en 1942 qui a sorti 30 albums. Il y a encore Thomas Helming, 53 ans, grosse vedette au Danemark, mais qui, malgré sa conversion à l'anglais, n'a jamais vraiment trouvé un public hors du petit royaume. Citons enfin un rocker polonais, Grzegorz Markowski, 64 ans, qui depuis quelques années se produit sur scène avec sa fille Patricia.
Donc finalement, aucun rocker européen n'a vraiment percé à l'échelle du continent.
Non, car l'anglais Elton John est clairement de classe mondiale. En fait, la patrie du rock, c'est définitivement l'Amérique et les vedettes non anglophones ne peuvent s'imposer qu'à la condition d'être jugées typiques de leur culture, charmeurs latinos ou chanteurs à texte romantique français.
Merci Daniel Vigneron de MyEurope.info. À la semaine prochaine.
À bientôt Laurent.
Et c'est Françoise Grelot qui a réalisé et mis en onde aujourd'hui cette édition fortement musicale. Accent d'Europe à retrouver demain dès 12h40, temps universel.